Alphonse Daudet, Robert Elmont, Journal d'un solitaire, 1870-1871. À l'Ermitage, ce 3 septembre. Il y a eu hier 6 semaines que je me suis cassé la jambe. C'était juste le jour de la déclaration de la guerre. Pendant que M. de Gramont soulevait au Sénat tant de bruit et d'enthousiasme, moi, en revenant de pêcher à l'épervier, je trébuchais au bord de la Seine contre un poteau caché par l'herbe et j'étais rapporté à mon ermitage de la forêt de Sénat dans un chariot de bûcherons. Ce matin, je suis sorti pour la première fois, après 50 jours de fièvre, de souffrances encore accrues par les nouvelles de la guerre. J'ai eu des cauchemars faits des batailles lointaines et les sinistres dépêches de Forbach, de Reichshoffen, restent pour moi confondues avec mes douleurs de blessés, la chaleur du bandage en plâtre, cette immobilité dans l'agitation qui est le plus cruel des supplices. Enfin, c'est fini. Après n'avoir si longtemps regardé que la cime des arbres et ces grandes nappes de ciel bleu où ne passent que des ailes, je me suis senti tout heureux de poser mes pieds à terre et de descendre mon escalier en hésitant. Mais quelle faiblesse ! La tête me tournait. Ma jambe, tant de jours immobile, avait oublié l'équilibre, le mouvement. Il me semblait qu'elle ne faisait plus partie de moi-même, que je n'étais plus maître de la diriger. Pourtant, à petits pas, avec cette méfiance extrême qui double l'infirmité, j'ai pu aller jusqu'à la basse-cour et pousser sa petite porte à claire-voie, enfouie sous les hautes herbes. Cela m'a fait plaisir d'entrer là. En mon absence, la femme du garde, mon voisin, a bien soigné tout ce petit monde qui me regarde avec des yeux étonnés, brillants et familiers. Les lapins, les uns sur les autres, sont venus au bord de leur cage, les oreilles dressées et remuantes. Les poules ont continué dans l'herbe leurs éternels coups de bec, secs comme de petites pioches. Plus démonstratif, le coq a ouvert ses ailes toutes grandes, avec un cocorico retentissant. Ensuite, je suis venu m'asseoir sur le vieux banc de pierre, verdi, usé, qui, avec la muraille pleine de brèches et 2 ou 3 pommiers rongés de mousse, date du temps où ma maison, les clos qui l'entourent, faisait partie d'un ancien couvent bâti au milieu de la forêt. Jamais mon jardin ne m'avait paru si beau. Les espaliers, un peu défeuillés, étaient lourds de pêches mûres et de grappes dorées. Les groseilliers s'étalaient en touffes claires, semés de quelques points rouges, et dans ce soleil d'automne qui fait mûrir toutes les baies, éclater les gousses, tomber les graines, les moineaux se poursuivaient avec des vols inégaux, des cris jeunes où l'on reconnaissait bien, à travers la bande, la recrue des nouvelles couvées. De temps en temps, le vol lourd d'un faisan passait par-dessus le mur en ruine et s'abattait sur un champ de sarrasin. En haut d'un gros arbre, un écureuil jouait, cassait des noix. La chaleur douce, où tout se meut si tranquillement, donnait à ce petit coin rustique un calme extraordinaire. J'avais oublié les Prussiens, l'invasion. Tout à coup, le garde et sa femme sont entrés. C'était si étonnant de voir le père Guillard à l'ermitage dans la journée, lui, l'éternel coureur du bois. J'ai compris qu'il y avait du nouveau. « Lisez ça, monsieur Robert, » m'a dit le bonhomme. Et, tirant de sa grosse veste de velours un numéro du National, froissé, gauchement plié par des mains peu habituées à manier les journaux, il me l'a tendu d'un air concerné. À la première page, un cadre noir et ses mots sinistres, « L'armée française a capitulé ». Je n'en ai pas lu davantage. Ébloui, les yeux fermés, j'ai revu pendant 5 minutes cette petite ligne entourée de bleuettes, de rayonnements, comme si je venais de la lire sur un mur blanc plein de soleil. Ainsi donc, plus d'espoir. La dernière digue est rompue. C'est l'invasion, la grande. Le garde croit que dans 8 jours, les Prussiens seront chez nous. Ah, mon pauvre monsieur, il faut voir cette débâcle sur les routes. D'ici Paris, c'est un encombrement de troupeaux, de voitures. Tout le monde fuit, déménage. À Champrosay, il ne reste plus personne. Il n'y a que le fermier Goudeloup qui n'ait pas voulu s'en aller. Il a renvoyé sa femme, ses enfants, chargé ses 2 fusils, et il attend. Et vous, père Guillard, qu'est-ce que vous comptez faire? Moi, monsieur, je ferai comme Goudeloup. Nos chefs ont oublié de nous donner des ordres. J'en profiterai pour rester à mon poste et garder ma forêt jusqu'au dernier moment. Quand les Prussiens arriveront, nous nous barricaderons dans l'ermitage. Car je pense bien que vous n'allez pas vous en aller, vous, avec votre jambe malade. Et puis, si on nous attaque, eh bien, nous nous défendrons. Vous, vous tirerez par les croisées, moi je garderai la porte Pacôme et la mère Guillard chargera les fusils. Pas vrai, la mère ? Brave homme, j'avais chaud au cœur en l'entendant parler. Malgré ses 60 ans, l'Indien, comme on l'appelle dans le pays, fait encore un beau soldat avec sa haute taille, ses larges épaules, ses yeux brillants pleins de ruse et de vie. Je pensais, en le regardant, qu'il y aurait eu vraiment de quoi s'occuper en compagnie d'un gars pareil. On aurait pu s'embusquer à la lisière de cette forêt qu'il connaît si bien, démolir quelques Prussiens au passage. Mais alors, le sentiment de ma faiblesse, de mon inutilité, m'est revenu subitement et m'a navré. Quand le garde et sa femme m'ont eu quitté, je suis resté tout seul, assis sur mon banc, à réfléchir. Étrange détresse que la mienne! Sentir en soi ce besoin d'agitation, de dépense vitale que donne l'approche du danger, et ne pas pouvoir faire seulement 10 pas dans ce petit jardin, combien de temps resterai-je ainsi? Le médecin dit que j'en ai encore au moins pour 2 mois. 2 mois! Ah, misère! Le vent fraîchissait, la jambe me faisait mal. Je suis rentré, j'ai dîné tristement. Après dîner, le garde est venu, comme tous les soirs depuis mon accident, fumer sa pipe avec moi. Il est plus que jamais décidé à rester à l'ermitage. Pendant qu'il me faisait tout haut ses plans, ses projets de défense, j'entendais de loin, par la fenêtre ouverte, les bruits ordinaires du crépuscule, des roues criant aux ornières, des trains en marche, des bruissements de feuilles au fourré du bois, et par moments, une autre rumeur, faite de toutes celles-là, confondues et augmentées, me semblait monter du sol, suivre le cours de la rivière, les petites collines de l'horizon, grandissant, grandissant toujours. C'était comme le pas multiple d'une armée en route qui se hâte au jour tombant, cherchant l'étape, pendant que le premier rayon de lune allume les canons des fusils et la pointe dorée des casques. Soudain, une détonation sourde, au ras de terre, nous a fait tressaillir. La mère Guillard, qui enlevait mon petit couvert, a senti trembler dans ses mains la pile d'assiettes qu'elle emportait. « C'est le pont de Corbeil qui saute, » a dit le garde. Et ce gentil pays, où je suis allé tant de fois déjeuner les jours de chasse, m'a semblé reculer de 20 lieues. Nous nous sommes regardés un moment, tous les trois, sans parler. À la fin, le père Guillard s'est levé. Il a pris son fusil, sa lanterne, et tout bas, les dents serrées, « Je vais fermer la porte Pacôme, » m'a-t-il dit avec un geste héroïque. « Fermer la porte Pacôme, cela n'a l'air de rien. Pourtant, je crois que le bonhomme aura du mal. Depuis près de 100 ans que la vieille porte du cloître est entr'ouverte, la forêt en a profité pour se glisser dans l'entrebâillement et faire grimper ses ronces indiscrètes à toutes les fentes des ais désunies. Si nous avons un siège à subir, je ne compte pas beaucoup sur cette porte-là. » 5 septembre. J'avais cherché cela longtemps, un coin solitaire, pas trop loin de Paris, et où, cependant, le Parisien ne vienne pas trop souvent. Un jour, en traversant la forêt de Sénart, j'ai découvert l'ermitage, et depuis 10 ans, j'y passe tous mes étés. C'est un ancien couvent de cordeliers, brûlé en 93. Les 4 grands murs sont restés debout, rouillés, avec de place en place des éboulements qui font dans la verdure des amas de pierres rouges, vite recouverts par une végétation riche, envahissante, des coquelicots, des avoines, des plantes raides, aux feuilles régulières et pointues, s'écartant entre les pierres comme des appliques de métal. Un portail s'ouvre sur la route. L'autre, la fameuse porte Pacôme, donne sur les fourrés du bois des petits sentiers à peine tracés, pleins de baumes, de menthes sauvages, où, les matins de brume, il m'a semblé souvent voir disparaître le capuchon d'un vieux moine cherchant des simples. De loin en loin, le long du mur, de petites poternes basses, condamnées depuis des siècles, laissent passer, dans l'assombrissement des futaies, de grands filets lumineux, comme si le cloître enfermait tout le soleil du bois. À l'intérieur, ce sont des terrains vagues, aux herbes brûlées, des petits jardins de paysans, des vergers séparés de treillages et 2 ou 3 maisons bâties en cette même pierre rouge qu'on trouve dans les carrières de la forêt. Le garde habite l'autre est toujours alloué. La mienne, une espèce de tourelle irrégulière et bizarre, se distingue surtout par une vigne vierge qui la couvre complètement. J'en ai coupé juste ce qu'il fallait pour pouvoir ouvrir mes fenêtres. Laissant à la cuisine ses grandes poutres vermoulues, au seuil sa marche usée, je me suis contenté d'exhausser un grenier à foin placé sous le toit, d'y mettre un vitrage à la place des murs, et cela m'a fait un atelier splendide, où je n'ai pour voisin que les nids de ramiers et de pies balancés à la cime des arbres. Quand je suis là, la forêt m'entoure de solitude comme une mer, avec la houle du feuillage, des flux et des reflux de brise, le murmure d'un temps calme. En été, l'après-midi, à l'heure de la chaleur endormie et silencieuse, un bourdon passe régulièrement, se heurte à ma vitre entr'ouverte dont la clarté l'attire, puis, comme une balle qui rebondit, il part en secouant la poussière dorée de ses grosses ailes et va se perdre dans les buissons de Troène au parfum de miel. Ce bourdon est mon horloge. Quand il passe, je me dis « Ah, voilà 2 heures !» et je suis bien. En somme, un coin merveilleux pour travailler et où j'ai fait mes meilleurs tableaux. Aussi, comme je l'aime ce vieil ermitage, depuis 10 ans, je l'embellis de mon mieux. J'y ai porté ce que j'appelle mes richesses, mes livres, mes cartons, mes collections d'eau-forte, d'anciennes armes. Et maintenant, il faudrait quitter tout cela, abandonner mon home à ces bandits. Pourquoi faire? Pour aller m'enfermer dans Paris? Mais puisque je ne peux pas marcher, à quoi leur serais-je bon là-bas? Ils en ont déjà trop de bouches inutiles. Eh bien, non. Décidément, cet homme a raison. Il ne faut pas nous en aller d'ici. Pro aris et focis. Je n'ai pu défendre ma patrie, c'est bien le moins que je défende mon foyer. 6 septembre. Ce matin, le garde entre dans ma chambre. Il était en grand costume comme au 15 août. Tunique verte, casquette, baudrier, couteau de chasse et une figure de circonstance aussi solennelle que sa tenue. « Mauvaise nouvelle, m'a-t-il dit en se plantant devant mon lit. On rappelle à Paris tous les gardes forestiers pour les incorporer dans la douane. Nous partons tout à l'heure. » Il avait l'air ému en me parlant ainsi, ce brave père Guillard. Moi-même, j'étais troublé par l'annonce subite de ce départ. Je me suis habillé à la hâte et nous sommes descendus. Le garde général était en bas, sur la route, avec une vingtaine de forestiers et de cantonniers, tout le personnel du bois. Puis des femmes, des enfants, des chiens d'arrêt et 2 grosses charrettes chargées de meubles, de cages à lapins, de poulets attachés par les pattes. La mère Guillard allait et venait dans sa maison ouverte, cherchant ce qu'elle devait laisser ou emporter, car les voitures étaient pleines et les premiers embarqués avaient pris toute la place. Il fallait voir les perplexités de la pauvre ménagère, courant d'un meuble à l'autre, traînant une grosse commode jusqu'à la porte et la laissant là, oubliant les choses les plus utiles pour s'encombrer d'objets sans valeur, mais qui étaient des souvenirs pour elle. La vieille pendule avec son globe, des portraits incroyables, une trompe de chasse, une quenouille, et tout cela plein de poussière, cette bonne poussière des reliques de famille, dont chaque grain parle de jeunesse et de beaux jours passés. « J'espère bien que vous n'allez pas rester ici, monsieur Robert !» m'a crié la bonne femme en traversant l'enclos. « On vous mettra sur une charrette !» Et pour achever de me convaincre, « D'abord, si vous restez, qui vous fera votre cuisine ?» Au fond, ces braves gens étaient un peu honteux de m'abandonner. Ce départ, quoique involontaire, leur semblait une trahison. J'ai essayé de les rassurer sur mon compte, en me rassurant moi aussi par la même occasion. Après tout, qui sait? Les Prussiens ne viendront peut-être pas jusque-là. D'ailleurs, l'ermitage, perdu dans la forêt, n'était pas sur le passage des troupes. Il n'y avait donc pas le moindre danger. Quelques jours de solitude, mais cela ne m'effrayait pas. Me voyant si bien décidé, le garde m'a serré la main. « Bonne chance, monsieur Robert, la femme va vous laisser notre clé. Vous trouverez du vin et des pommes de terre à la cave. Prenez ce que vous voudrez, nous compterons au retour. Et maintenant, la mère, en route, les camarades s'impatientent. Surtout, tu sais ce que je t'ai dit, tâche de ne pas pleurer. » Elle en avait pourtant bien envie. En donnant le dernier tour de clé, sa main tremblait. Elle serrait les lèvres. À ce moment, un « i-an » formidable a fait retentir l'hermine. Le garde et sa femme se sont regardés, consternés. « C'est colaqué. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Ce malheureux colaquet, qu'ils avaient oublié dans le trouble du départ, était leur âne, un joli petit âne gris, à l'œil ouvert et naïf. Piqué au museau, quelques jours auparavant, par une vipère, on l'avait mis au vert dans un petit champ de regain. Et maintenant, il était là, à regarder partir ses maîtres, appuyant contre la haie sa tête enflée, qui le faisait ressembler à une bête de l'Apocalypse. Comment l'emmener ? Il serait mort pendant la route, et pourtant, le vétérinaire avait bien promis de le sauver. Le sort de ce pauvre animal, un peu semblable au mien, m'a touché. J'ai promis de veiller sur Colaquet, de le rentrer tous les soirs à l'écurie. Alors, les bonnes gens m'ont dit merci, et l'on s'est séparés. Triste départ ! Les charrettes, lourdes, surchargées, suivaient lentement le grand chemin de la forêt en faisant crier les cailloux. À côté couraient les enfants, excités par l'imprévu du voyage. Les hommes, à la file, longeaient la lisière du bois, le fusil sur l'épaule, tous d'anciens soldats, aguerris et disciplinés. Derrière eux, s'écartant à peine pour écouter le vol d'une poule faisane ou flairer le passage d'un lapin, les chiens s'en allaient, inquiets, la tête basse. Les animaux domestiques n'aiment pas à être dépaysés et cela suivait, à la piste des charrettes, le logis devenu ambulant. La mère Guillard venait la dernière, tenant à la main la grande cage de sa pie et, de temps en temps, elle se retournait. Je les ai regardés, assis sur la borne, près du grand portail, jusqu'au moment où tout le convoi disparut dans ce resserrement des chemins qui s'éloignent. J'ai vu luire le dernier fusil, j'ai entendu grincer le dernier essieu. Puis la poussière des grandes routes les a pris tous dans un tourbillon. C'est fini, j'étais seul. Cette idée m'a laissé en malaise inexprimable. 7, 8, 9 septembre. C'est une existence nouvelle qui ne serait pas sans charme si elle n'était troublée par une angoisse, une inquiétude, une attente singulière qui suspend la pensée, rend tout travail artistique impossible. Je ne peux me prendre qu'à des occupations bêtes, à ces détails de la vie matérielle dont j'ai toujours eu l'horreur et auxquels il faut bien que je me résigne maintenant que je suis mon propre domestique. Dois-je l'avouer, ces niaiseries ne m'ennuient pas trop. Je comprends les solitaires qui s'amusent à sculpter des racines, à tresser des paniers. Les travaux manuels sont de bons régulateurs pour les existences encombrées de loisirs et de liberté. Donc, tous les matins, je commence par faire une visite au poulailler et quand je sens la tiédeur d'un œuf sous la paille, je suis heureux. Ensuite, à petits pas, en m'appuyant sur un bâton, je tourne autour du jardin, je cueille les fruits mûrs. Et si, dans les grandes rames sèches brûlées de soleil, je récolte des haricots dont les cosses s'ouvrent tout à coup et s'égrènent entre mes doigts. On rirait de me voir assis devant ma porte, taillant le pain de ma soupe ou lavant ma salade en grande eau. J'éprouve à toutes ces choses un bien-être un peu enfantin, mais la convalescence n'est-elle pas elle-même une enfance, un recommencement de vivre ? Pour éviter les montées et les descentes dans l'escalier aux marches cassées, irrégulières, j'ai fait mon lit dans la salle du rez-de-chaussée. Cette pièce-là me sert de salon, de chambre, de cuisine. Par ces temps fort doux, la porte reste grande ouverte tout le jour sur le jardin. J'entends le bruit des poules, toujours occupées et bavardes, les petites pattes sur le sable, la paille remuée. À côté, dans le clos du garde, je vois le pauvre colaquet étendu, secouant ses mouches et, avec sa paresse de malade, allongeant sa langue devant lui sur le pré tout violet des 1000 grappes de la luzerne. Le soir venu, il s'approche péniblement de la clôture qui nous sépare. Moi-même, je me traîne jusque-là. Je lave sa plaie, je renouvelle son eau, je lui jette une couverture sur le dos pour la nuit et il me remercie en remuant ses longues oreilles. Ce qui me coûte, dans l'état de souffrance où je suis encore, c'est d'aller chercher de l'eau à l'ancien puits du couvent, tout au bout de l'enclos. Quand j'arrive, je suis obligé de m'asseoir un moment au bord de la margelle fendue, mangée d'herbes folles. Les ornements en fer forgé, d'une courbe ancienne et élégante, ont l'air, sous la rouille qui les ternit, de tiges grimpantes, dépouillées par l'automne. Cette mélancolie est bien en rapport avec le grand silence de l'ermitage et cette atmosphère d'abandon qui m'entoure. Le seau est lourd. En revenant, je m'arrête deux ou trois fois. Il y a là-bas, au fond, une vieille porte que le vent fait battre. Le bruit de mes pas résonne et me gêne. Oh, solitude ! 10 septembre. Je venais de déjeuner sur la pelouse. Un excellent déjeuner, ma foi. Des œufs frais, des raisins cueillis à ma belle vigne rouge. J'étais là, sans penser, entouré de lumière, de chaleur, de silence, très occupé à regarder la fumée de ma pipe et mes assiettes peintes où quelques guêpes s'acharnaient aux grappes vides. Autour de moi, je sentais le même recueillement, le même endormement de toutes choses dans cette claire journée d'automne, sous un ciel d'un bleu profond et pur, encore plus beau que les ciels d'été, souvent voilés et pâlis par des brumes chaudes. Tout à coup, une détonation formidable, très voisine, a ébranlé la maison, secoué les vitres, le feuillage, et fait sortir de partout des vols éperdus, des cris, des effarements, une galopade. Cette fois, ce n'était pas le pont de Corbeil, mais le nôtre, notre joli pont de Champrosé, qui venait de sauter. Cela voulait dire « les Prussiens sont là ». Aussitôt, mon cœur s'est serré, un voile a passé sur le soleil. Puis cette idée m'est venue que demain, ce soir peut-être, les chemins du bois seraient envahis, tout noirs de ces cancres-là, que j'allais être obligé de me terrer, de ne plus sortir. Et j'ai voulu revoir une fois encore ma chère forêt, dont je suis privé depuis 2 mois. Les allées étaient admirables, élargies, dégagées des grandes herbes de l'été, ouvertes d'en haut, par leurs rameaux éclaircis sur une longue ligne lumineuse. Aux ronds-points inondés de soleil, des bruyères roses un peu passées fleurissaient en bouquets, et dans les fourrés, parmi les troncs noirs, comme une petite forêt sous la grande, les fougères montraient leurs arbres microscopiques au feuillage bizarre. Et quel silence ! Ordinairement, 1000 bruits vagues nous arrivent du lointain, les trains en marche qui marquent la ligne d'horizon, les pioches des carriers, des essieux de charrettes tournant lentement aux ornières, les coups de sifflet déchirants de la chaîne. Aujourd'hui, rien. Pas même ce murmure perpétuel qui est comme la respiration des forêts endormies, ces soulèvements de feuilles, ces crépitements d'insectes, ces jolies frottes, des ventailles déployées que font les oiseaux sous le feuillage. Il semblait que la détonation de tout à l'heure eût stupéfié la nature. Un peu là, je m'étais assis sous un gros chêne quand j'ai entendu un froissement de branches. Enfin, je m'attendais à voir un lièvre ou un chevreuil détalé sur le chemin, mais le feuillage écarté, un grand diable tout habillé de noir, avec un fusil sur l'épaule, un revolver à la ceinture et la tête couverte d'un immense chapeau tyrolien, a bondi à 10 pas de moi. J'ai eu peur. Je croyais avoir affaire à quelques tirailleurs bavarois ou saxons, c'était un franc-tireur parisien. Il y en avait une 20aine dans la forêt en ce moment, reculant jour par jour devant les Prussiens, s'embusquant pour surveiller leur marche, et démontait de temps en temps un hulon de l'avant-garde. Pendant que cet homme me parlait, ses camarades, sortis du fourré, sont venus nous rejoindre. Presque tous d'anciens soldats, ouvriers dans les faubourgs de Paris. Je les ai emmenés à l'ermitage et leur ai fait vider quelques bouteilles. Ils m'ont appris que la division du prince de Saxe était arrivée à Montereau, juste à une étape d'ici. J'ai su aussi par eux les travaux de défense commencés autour de Paris, l'organisation des troupes, et de les entendre parler avec cette tranquillité, cette confiance, et surtout l'accent parisien, cela m'a réchauffé le cœur. Ah, les braves gens! Si j'avais pu m'en aller avec eux, me coiffer de leurs chapeaux ridicules et combattre dans leurs rangs, sous les murs de la bonne ville! Mais hélas, rien que pour avoir fait 20 pas dans la forêt, ma jambe est enflée et je souffre. C'est égal, j'étais ému en me séparant d'eux. Voilà les derniers Français que je verrai peut-être de longtemps. Ils sont partis au jour tombant, égayés par ma piquette. Je leur ai donné une poule, mais ils m'en ont emporté 4. 11 septembre. Rien. 12 septembre. Rien encore. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Auraient-ils été obligés de reculer? Cette attente est vraiment insupportable. 13 septembre. Je n'ai plus de pain que pour 2 jours. Je me suis aperçu de cela ce matin en ouvrant le bahut où la mère Guillard mettait ma provision de la semaine, 6 grands pains farineux et dorés qu'elle retirait pour moi du four chaque dimanche. Comment vais-je faire? J'ai bien un four, une huche, mais pas la moindre farine. Peut-être en trouverai-je à la ferme de Champrosé si Goudeloup est resté comme il en avait l'intention. Mais le moyen d'aller jusque-là, dans l'état de faiblesse où je suis... Assis devant ma porte sur le banc du jardin, je faisais d'assez tristes réflexions quand j'ai entendu galoper près de moi dans le champ du garde. C'était Colaquet, Colaquet, si indolent d'ordinaire, qui gambadait autour du clos, levant de petites touffes d'herbe sous ses sabots et se roulant les quatre fers en l'air avec un contentement, une joie de vivre. À mon appel, il est venu en deux bonds, poser sur le treillage sa tête désenflée et naturelle, et l'agitation de ses longues oreilles, dont je commence à comprendre le langage, me disait le bonheur qu'il avait de se sentir libre, déprisonné de sa souffrance et de son infirmité. Heureux Colaquet, le voilà guéri avant moi. Et tandis que je le regardais d'un œil d'envie, je me suis souvenu qu'il y avait là-bas, sous le hangar, une vieille carriole dont le père Guillard se servait autrefois, les jours de fête, pour promener des Parisiens en partie dans la forêt. Si j'attelais Colaquet, nous pourrions aller chercher de la farine. Me voilà fouillant dans le hangar. Parmi les pioches rouillées, les râteaux à foin, les herses hors d'usage, j'ai fini par découvrir un charaban vermoulu, délaissé, désœuvré, les deux bras à terre. Avec quelques bouts de corde, des clous, je l'ai remis à peu près en état. Cela m'a pris jusqu'au soir. Mais quel bon travail ! J'étais enchanté de chercher dans ces vieux clous, ces chevilles usées. Une fois ou deux, je me suis surpris à siffler en travaillant. C'est beau quand on attend les Prussiens. Maintenant, tout est prêt, la charrette, l'attelage. Demain matin, s'il n'y a rien de nouveau, en route pour Champrosay.